Bonjour à tous.
Bonjour. Allez bien.
Bonjour, monsieur.
Voilà, on vient de chanter, on vient de louer Dieu, notre Seigneur. Et là, ce matin, maintenant, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2, s'il vous plaît. Hébreux 11, 1 à 2. Qu'est-ce que la foi ? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère et une manière de le posséder déjà d'avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Amen.
Amen.
Ça, c'est vraiment bien expliqué. C'est dans la version Parole vivante d'Alfred Kuhn, la première version. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais juste vous dire que la lecture que je vous ai faite vendredi passé est tirée d'un livre qui s'appelle Hermas le Pasteur. Hermas le Pasteur, que vous trouverez dans la collection La Pléiade, ce fameux bouquin dont je vous parle déjà depuis quelques temps, qui est donc, dont le titre est « Premiers écrits chrétiens ». Et ce livre date du début du deuxième siècle après Jésus-Christ. Du début du deuxième siècle, c'est ce qu'on pense, mais il y a d'autres avis. Ce livre était considéré quand même par Irénée, par Tertullien, par Clément d'Alexandrie, comme canonique. Dans le Codex Sinaiticus, pour ceux qui connaissent, il se trouve dans le Nouveau Testament. Donc c'est quelque chose que certains ont rejeté par la suite. Il se pourrait que l'auteur de ce livre soit Hermas, dont l'apôtre Paul parle dans son épître aux Romains, au chapitre 16, verset 14. Il se pourrait, je ne dis pas que c'est lui, mais il se pourrait. Ce livre cite Clément Ier, qui était évêque à l'époque à Rome, et c'est ce qui prouverait que ce livre date de 88 à 97 après Jésus-Christ, donc vraiment très récent. Déjà du temps des apôtres, il y avait encore des apôtres qui vivaient à cette époque-là. Voilà, ça fait déjà quelques temps que je vous recommande de vous procurer ce livre, j'espère quand même que plusieurs, en tout cas chez nous, l'ont fait, mais pour vous qui êtes sur le net, j'espère que vous allez le faire, parce que c'est quelque chose que Dieu nous donne dans notre génération, et ça vaut vraiment la peine de sortir quelques euros pour pouvoir obtenir des si belles choses. Donc ce matin, je ne voudrais pas vous parler de Hermas, le pasteur, mais je voudrais vous parler de la foi. C'est un sujet qui est peu abordé dans les églises. Vous allez me dire, ah bon, mais non, on nous parle tout le temps de la foi. Oui, je sais. C'est comme si, par exemple, excusez-moi, hein, vous allez dire encore que je critique. Non, je ne critique pas. Mais je dis quelque chose d'évident, c'est un peu comme si on vous dit « il faut avoir la foi », c'est comme si on vous présente un bouquin, hein, c'est écrit « la foi », puis quand vous l'ouvrez, il n'y a pas de page, c'est-à-dire il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas d'explication. Enfin, avoir la foi, c'est bien, mais c'est quoi, c'est comment, ça marche comment la foi? Parce que tout marche avec des lois. Alors, je suis très conscient que certains chrétiens vont dire « voilà, Michel, il tombe dans des hérésies New Age, il nous enseigne des trucs faux. Bon, ben, c'est pas grave que vous pensez ça, ça me gêne pas du tout, ce que vous pensez ne me gêne pas du tout. Moi, je vous dis ce que j'ai sur mon cœur, et puis c'est mon droit, et puis c'est mon site, et puis je fais ce que je veux. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai été conduit de cette manière-là, alors maintenant, je vous demande de, simplement, si vous n'êtes pas d'accord, ben vous allez écouter d'autres choses, hein, il y a d'autres choses. Mais là, ce matin, c'est ce que j'ai envie de vous dire de la part du Seigneur, parce que c'est bon, c'est quelque chose que je mets en pratique depuis des années, et ça marche. Alors pourquoi est-ce que je ne le dirai pas? J'ai déjà dit d'une certaine façon ces choses-là, mais aujourd'hui, je vais être encore plus pointu. Il faut bien reconnaître une chose, c'est que nous sommes à la fois matériel et aussi spirituel. Ça, on ne peut pas le nier. Et chez chacun de nous, l'objectif, le physique, le visible, représente ce qui peut être identifié par nos sens, hein, la vue, l'ouïe, le toucher, toutes ces choses-là. Ça, c'est le côté matériel. Cela, c'est notre côté matériel composé, en fait, de notre corps, avec un cerveau, avec des nerfs, etc., etc. Je ne vais pas vous dessiner un corps en entier, tout ça, c'est notre corps. Et on capte avec notre corps. Et puis tout ça, c'est des flux électriques, tout ça, ça marche d'une façon plus ou moins parfaite, mais voilà, c'est comme ça qu'on est fait. Et puis, il y a le côté spirituel, invisible. On n'a jamais vu une âme chez un médecin, comment on appelle ça, en faisant la radiologie, en faisant un scanner, où on voit l'âme, on ne voit pas, l'esprit, on ne voit pas. Par contre, quand il n'y en a plus, on voit la différence. Hein. L'âme n'est plus là, l'esprit n'est plus là, le corps, il est tout bizarre. J'ai vu toujours une vidéo sur YouTube, alors on voit le corps d'une personne en train de mourir, et ils sont en train de filmer la chaleur, et on s'aperçoit que la chaleur, elle commence à s'en aller par les pieds, ça se refroidit jusque finalement aux yeux, puis après, bon voilà, il n'y a plus rien, il ne reste plus que le corps. Nous sommes un corps, mais nous sommes aussi un esprit, dans un corps. D'un côté matériel, le côté matériel, c'est ce qu'on appelle le conscient, parce qu'on est conscient, hein, je suis conscient que je suis là, vous êtes conscient que vous êtes là où vous êtes conscient de ce que vous voyez autour de vous, vous êtes conscient des odeurs, par exemple là je suis conscient des bonnes odeurs, des choses qui nous ont été préparées pour midi, merci Marie-Claire et tous les autres, et ça c'est notre côté conscient. Notre côté spirituel, il n'est pas conscient de lui-même, c'est-à-dire on n'est pas conscient nous-mêmes, notre conscience n'est pas conscient de notre côté spirituel. Et c'est ce que les incroyants appellent l'inconscient, mais nous savons que c'est l'esprit. L'esprit plus le corps, ça forme l'être, ce que nous sommes. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Notre côté matériel, ou conscient si vous voulez, il détient le pouvoir de la volonté et du choix. Donc, nous pouvons exercer une discrimination dans les choix des méthodes qu'on va utiliser pour arriver au point où nous voulons arriver pour obtenir ce dont nous avons besoin. On fait des choix. Ça, c'est pas un bon truc. Je prends pas, je fais pas, ça sert à rien. Pour obtenir ça, ça ne m'est pas utile. Vous comprenez ? On fait des choix. C'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que les gens fonctionnent. L'apôtre, il appelle les inconvertis, les gens qui ne sont pas nés de nouveau, les appelle homme animal. Eh bien, c'est comme ça que l'homme animal fonctionne. Et ça marche très bien. En effet, et il faut bien reconnaître que les gens de ce monde n'ont pas besoin d'avoir la foi en Jésus-Christ pour conduire une voiture. Hein? Ou pour acheter une maison, ou pour vendre une maison, ou pour choisir un bon restaurant. Ils n'ont pas besoin d'avoir la foi en Jésus pour créer une entreprise. Ils n'ont pas besoin d'avoir la foi en Jésus pour voyager. Ils n'ont pas besoin de la foi en Jésus pour gagner de l'argent, pour gagner leur vie, ni pour se soigner, ni pour inventer des trucs et des machins, et également aussi des choses. Hein, ils n'ont pas besoin de la foi en Jésus pour faire toutes ces choses-là, etc., etc., etc. Leur volonté et leur capacité, leur possibilité de choix, leur intelligence, ben ça c'est suffisant. On peut très bien se débrouiller sans la foi en Jésus. Pardon pour les chrétiens qui sont absolutistes, etc., etc., etc. Il faut reconnaître les choses. La plupart des choses que vous utilisez n'ont pas été créées par des chrétiens. Par des gens nés de nouveau. Nous autres chrétiens, nous nous confions chaque jour au Seigneur Jésus-Christ, nous remettons notre vie entre les mains de Dieu chaque matin et chaque soir, et nous comptons toujours sur son aide, sur sa protection en toutes choses, parce que nous l'aimons, nous le respectons et nous l'invitons dans notre vie à nous protéger, à nous garder, à nous guider. Et nous l'aimons, et nous voulons faire sa volonté, nous voulons pas nous tromper, nous voulons pas être trompés, et voilà pourquoi nous remettons notre sort entre les mains de l'Éternel. C'est une chose qui est magnifique et qu'il faut absolument faire. Mais cela ne nous dispense pas, mes frères et sœurs, d'être volontaires. Ça ne nous dispense pas d'être intelligents, d'être entreprenants, et d'être décisionnaires. Etc., etc., etc. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas une bande de passifs qui attendent que Dieu fasse tout pendant que nous prions, pendant que nous louons, pendant que nous jeûnons et pendant que nous lisons la Bible. Ça, c'est de l'idiotie, c'est pas du christianisme. Ceux qui réussissent, qu'ils soient chrétiens ou non, doivent s'instruire, réfléchir, faire des choix, s'engager, persévérer dans l'engagement qu'ils ont pris, etc., 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 qu'ils soient chrétiens ou pas. Et quand on regarde autour de nous, on voit malheureusement que beaucoup de chrétiens vivent au seuil de la pauvreté. Pourquoi ? Alors, par expérience, je peux dire que beaucoup de chrétiens ne savent pas réellement ce que c'est que la foi. C'est là où réside le problème. Ils spiritualisent tout, beaucoup trop, d'une façon insensée. Ce matin, je voudrais vous aider à comprendre quelques lois de la foi. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre tout, mais quelques lois de la foi qui sont basiques et qui vont vous aider à faire des bons en avant. Vraiment. Parce qu'il y a des lois de la foi. Parce que tout marche avec des lois. Sinon, on ne pourrait pas avoir la foi. Comment est-ce qu'on pourrait avoir la foi si c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, qui est un truc complètement irrationnel, inintelligent, incompréhensible? Non, il y a des lois de la foi. Alors, on commence ?
Oui.
Ça vous intéresse ?
Oui.
On y va. Si déjà vous êtes choqué, arrêtez d'écouter, c'est parce que ça va venir grave là. Alors évidemment, il faut savoir une chose. Plus l'homme animal, c'est-à-dire l'homme inconverti, la femme aussi, hein, inconverti, plus il est instruit, plus il est donc... Instruit c'est bien, mais il faut être intelligent aussi. Vous savez qu'ils sont instruits et pas intelligents. Mais plus il est instruit et plus il est intelligent, plus il a de chances de bien se débrouiller dans sa vie. Même s'il a des tas de doctrines fausses à côté de ça. Alors que certains chrétiens, bien que très spirituels, authentiquement spirituels et saints, ne se débrouillent pas si bien. Parce que ils refusent d'être instruits et ils refusent d'être intelligents. Vous allez me dire, ah bon ? Mais bien sûr. Il y en a d'autres qui ne sont pas intelligents, voilà, c'est tout. Mais ils refusent de s'améliorer. Ils lisent la Bible et c'est tout. C'est bien. C'est déjà pas mal, parce qu'il y en a qui ne la lisent même pas. Hein. Mais il faut s'instruire, il faut se former. C'est la chose la plus importante. Nous avons un cerveau, nous avons des capacités, il faut les développer. S'attendre à ce que Dieu fasse tout, mais c'est une imbécilité monumentale. Alors qu'il nous dit, fais-le, 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 fais-le. Qu'est-ce que c'est qu'une femme vertueuse ? C'est une femme qui pense à un champ et qui l'attire, mais d'abord elle y pense. Elle n'est pas en train de se promener dans la rue et elle dit, tiens, je vais acheter un champ. J'achète un champ. C'est imbécilité, mais ça m'énerve ces trucs-là. Le côté spirituel, notre esprit, est en contact avec Dieu qui est la source de tout pouvoir. Mais notre côté spirituel ne peut pas faire de choix. C'est notre conscience qui fait les choix. C'est consciemment qu'on fait les choix. C'est intelligemment qu'on fait les choix. C'est après réflexion qu'on fait les choix. Et ça, c'est pas le domaine de l'esprit, c'est le domaine de l'âme. C'est notre être conscient, avec notre cerveau, avec nos nerfs, avec nos émotions, etc., etc. Et c'est tout ça qui fait que on fait des choix, on fait... Par contre, notre esprit, lui, il peut engendrer et il engendre des résultats. On va voir ça. On va étudier ça ce matin. Pourquoi je vous enseigne ça ? parce que ça me fait souffrir, ça me fait vraiment souffrir de voir tant de chrétiens qui ne savent pas être pratiques dans leur vie, qui ratent des tas d'occasions. Ils sont spirituels, très souvent plus spirituels que moi, mais ils sont continuellement fauchés. Ils vivent presque dans la misère, dans des toutes sortes de désordres émotionnels et compagnie. Et ça me fait de la peine. Et voilà pourquoi je me donne du mal pour enseigner ces choses afin que cette situation change. Dans les églises, on vous dit d'avoir la foi, c'est juste, mais c'est pas complet. Vous devez savoir que avoir le choix de vous appuyer sur votre volonté humaine, même si elle est très limitée, et même si des fois elle vous conduit à faire des bêtises, c'est une chose. Mais vous savez que vous pouvez avoir le choix aussi d'utiliser le pouvoir illimité qui est en vous. Vous pouvez faire le choix d'utiliser l'esprit qui est en vous. Dieu nous a donné ce pouvoir avec un mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est la Bible. La Bible, c'est pas simplement des histoires qui nous racontent comment Zachée est descendu de l'arbre. C'est Zachée qui est descendu de l'arbre. L'autre jour, j'ai dit que c'était Bartimée. Ou comment Moïse a traversé la mer verte. Non, rouge. Ou comment s'appelait la sœur de Moïse. Ou combien de miracles a fait Jésus. C'est pas un livre qui nous apprend seulement ces choses. Bien sûr que c'est intéressant, mais ça ne nous apprend pas que ça. Ça nous apprend les bonnes lois de la vie pour vivre une bonne vie. C'est le mode d'emploi. Malheureusement, la plupart des gens se servent du message de la Bible que comme un code moral. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ça, on peut faire. Mais c'est pas que un code moral. C'est pas que un livre de prophétie. C'est pas que un livre d'histoire. Dieu a mis en vous le pouvoir spirituel sous votre contrôle. Vous le contrôlez consciemment. Il est sous votre contrôle si seulement vous reconnaissez que cela existe, si seulement vous comprenez et appréciez et aimez ce que Dieu a fait. Comment il vous a fait? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Vous allez me dire que je saute du coq à l'âne, mais pas du tout, je sais où je vais en venir. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question du pourquoi? Est-ce que on a des images mentales? Bon, j'ai une image, par exemple, là, je vois tous les gens qui sont assis là devant moi pour m'écouter. Je vois la caméra, j'ai des images bien réelles, physiques. Mais j'ai des images mentales. Je pense à Eric Jacques en ce moment. Je le vois dans ma tête. Quand je vous ai dit Eric Jacques, vous avez tout de suite vu Eric Jacques dans la tête. Vous n'avez pas vu un éléphant. Vous l'avez vu dans votre tête. C'est une image mentale. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Pourquoi, quand on pense à quelqu'un ou à quelque chose, il se forme dans notre esprit, qu'on le veuille ou pas, l'image de la personne ou de la chose à laquelle on pense? Pourquoi? Parce que... Non, je vais vous expliquer. Je vais vous le dire tout cru, pourquoi? Parce que l'image, c'est le moule duquel va jaillir votre futur. Heureusement, pas toutes les images. Heureusement. Il y a certaines images qui sont inutiles, elles passent à la poubelle tout de suite, on ne les entretient pas, puis ça file, ça s'en va. Tant mieux. Mais si seulement vous réfléchissez, vous allez comprendre. Dieu nous a créés avec le pouvoir de voir, de visualiser intérieurement. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est pas le diable qui nous a créés comme ça. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Et vous pensez-vous que Dieu vous a fait un cadeau qui sert à rien? Ou qui est diabolique? La visualisation, c'est diabolique. Oh, attention, c'est du New Age, c'est satanique, faut pas visualiser. Alors, excusez-moi, je suis satanique à fond de cale parce que moi, je visualise sans arrêt. Et je suis sûr que vous aussi, vous visualisez sans arrêt. Quand vous avez une image mentale, c'est que vous visualisez et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser. Et vous donc, vous ne pouvez pas vous imaginer, vous ne pouvez pas vous empêcher de visualiser parce qu'on pense en image. Est-ce que c'est diabolique? Non! C'est un don de Dieu. Comment l'utiliser? Alors bon, je pars du principe que vous m'aimez. Je ne parle pas à ceux de la communauté, ça c'est sûr. Mais je parle de ceux qui nous écoutent sur Internet ou qui regardent la vidéo. Je pars du principe que vous m'aimez et que vous croyez que je suis un envoyé de Dieu et que je ne cherche donc pas à vous induire en erreur. Je pars de ce principe et je vous dis les choses telles que. Alors on y va. Vous êtes à la recherche de quoi? Si je vous posais la question, tu es à la recherche de quoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Quel est ton but actuel? Vraiment ton vrai but là, tout de suite, dis-le-moi là, tout de suite, ton vrai but, c'est quoi? Que voulez-vous changer? Qu'est-ce que vous voulez qui change dans votre vie? Quelle est la priorité? Qu'est-ce que vous voulez qui change? Pensez et écrivez ce que vous voulez qui change. Beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Peut-être, est-ce que vous voulez un bon travail? Peut-être vous voulez une bonne santé? Peut-être vous voulez un mari ou une épouse? Ou peut-être que vous voulez la paix dans votre couple? Ou peut-être que vous voulez maigrir? Je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez ce que vous voulez, du moins j'espère. Écrivez ce que vous voulez sur un bout de papier. Et puis asseyez-vous et créez en vous l'image de ce que vous voulez. Mais il faut que ça soit une image claire. Il faut que ça soit une image en couleur. Il faut que vous la voyez dans les détails. Et puis une fois que vous la voyez, cette image, il faut que vous l'embellissiez. Il faut qu'elle soit plus belle que normal. Souvenez-vous, personne ne peut vous imposer des limites, puisque Dieu est illimité. Votre esprit est illimité. Personne ne peut vous imposer des limites, si ce n'est vous-même. Des gens pensent, je veux une voiture, c'est pas suffisant. Il y a des deux chevaux, mais il y a des Rolls aussi, c'est quoi que tu veux? Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas vous limiter, vous. Pensez, je suis illimité, je ne suis pas limité par le coût que ça va avoir, ce que je veux. Par exemple, supposons vous voulez une Rolls. Ne pensez pas, ouais, mais c'est impossible, comment je vais y arriver à avoir une Rolls, ça coûte tellement cher. Si vous pensez comme ça, oubliez la Rolls. Pensez plus petit. Mais choisissez ce que vous voulez, en vous rappelant que Dieu est illimité. Vous seriez bien bête de choisir une deux chevaux si vous avez un Dieu qui est illimité. Si vous croyez vraiment que Dieu est illimité. Parce que tout est à Dieu. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Vous êtes à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes donc illimités puisque tout est à Dieu et que nous sommes à Dieu. C'est à notre papa. Tout est à notre papa parce que notre papa est illimité. Tout lui appartient. Il peut vous mettre à disposition tout ce que vous voulez, a dit. Tout ce que vous voulez, demandez-le dans la prière et vous le verrez. Est-ce que c'est faux? Non, c'est vrai. Alors, mais pourquoi il y a si peu de... Alors, il y a des gens qui prêchent abondance et qui vivent dans la pauvreté. C'est invraisemblable, ça. Tirez vos ressources de l'infini. Et non pas du raisonnable. Si vous tirez votre ressource du raisonnable, vous n'allez jamais rien avoir d'extraordinaire. Parce que toute votre raison va vous dire, « Ouais, mais c'est pas possible. Bon, allez, supposons que j'ai une Rolls. Ah, mais si je pète un catadiope de Rolls, ça coûte 2000 euros le catadiope de Rolls. Je pourrais jamais le remplacer. Ah, non, il vaut mieux pas que j'ai une Rolls. » Mais combien pensent comme ça? Combien? Alors, tirez vos ressources de l'infini et non pas du raisonnable. Construisez votre modèle dans votre imagination. Ce modèle doit se trouver d'abord dans votre imagination avant de devenir une réalité visible. Attendez, vous allez dire que je dis n'importe quoi. Je relis. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. c'est une manière de posséder déjà d'avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. J'invente rien. Je vous dis la Bible. Alors, ce modèle, il doit être d'abord dans votre pensée avant de se trouver ailleurs, c'est-à-dire dans le réel, dans le concret. Vous me dites, oui, mais il faut prier, et puis... Oui, il faut prier. Je vais vous donner un autre verset de la Bible, parce qu'il me semble que... Il me semble qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien. Est-ce que vous connaissez Éphésiens 3:20 ? Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il faut demander et penser. Les gens demandent sans imaginer, sans penser. Ils pensent que prier, ça suffit. Ben, c'est une fausse pensée, c'est une mauvaise pensée. Dieu veut que nous pensions, et si nous prions et pensons, alors Dieu va au-delà. Encore au-delà de ce qu'on pense, ce qu'on imagine, ou de ce qu'on prie. Mais ça, c'est des lois bibliques. C'est pas le New Age qu'il a inventé, ils nous l'ont volé. Parce que les bons pasteurs ne le prêchent pas. Hein, Michel, ça y est, tu tapes encore sur la religion. Ben oui, je tape sur la religion. Ils ont laissé les gens crever dans le misérabilisme et la nouillerie. Et vous voulez que je... Moi, je vais pas me taire, je vais les dénoncer. C'est abominable. Comme dit l'autre. On n'a pas le droit de cacher ces vérités aux gens du peuple. Il faut dire la vérité. Je suis là pour dire cette vérité-là et bien d'autres encore. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, cette image en vous, il faut que vous la mainteniez. Il faut que vous la mainteniez. Vous pouvez être et avoir tout ce que vous voulez être et avoir. Ça, c'est ce que Jésus promet. Tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est ce que Jésus promet. Ne doute pas dans ton cœur. C'est ce que Jésus promet. Alors, la foi sort de l'invisible tout ce que tu veux voir visiblement. Ça existe dans l'invisible, mais tu vas le voir. Tu ne l'as pas dans la réalité, mais ça va devenir une réalité que tu vas avoir. Voilà ce qui est écrit dans Hébreux 11:1. Mais tu sais quoi ? C'est un travail. C'est un travail, ça n'est pas facile de maintenir la visualisation, la pensée, et d'être persévérant dans la prière. Voilà pourquoi Jésus est obligé de nous dire qu'il faut persévérer dans la prière. Lui-même, quand il a prié une fois, ça n'a pas marché, il a prié une deuxième fois, puis ça a marché. Moi, je suis prêt à prier des milliers de fois jusqu'à ce que ça marche. Non ? Ouais. J'ai demandé à Dieu, il ne m'a rien donné, alors j'arrête, je pense que ce n'était pas sa volonté. Je pense que... Pense juste. Tu sais quoi ? C'est un travail. Ça n'est pas facile. Tu dois te décider de rester ferme sur ta décision. Tu dois te décider de rester ferme sur ta décision. La plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Comment voulez-vous qu'ils restent fermes sur ce qu'ils ont décidé ? Sache ce que tu veux. Pense-y clairement. En Suisse, j'ai un petit frère. Il s'appelle Eric. Et il est ingénieur génie civil. Entre autres, il fait des ponts. Et quand il construit un pont, par exemple, il dessine chaque ligne, chaque détail, à l'avance, bien mesuré, à l'échelle. Il ne fait rien au hasard. Il est extrêmement minutieux, cette famille. On est des casse-pieds pour ça. On chipote sur les trucs, sur les détails. Il y pense. Il a l'image de ce pont dans la tête et il la met sur le papier. Mais il l'a dans la tête d'abord. Et puis le travail peut commencer dans le réel après, pas avant. Il ne dit pas aujourd'hui, on va construire un pont, alléluia, alléluia, il y a besoin d'un pont, on va construire un pont. Allez, amenez-moi des briques, amenez-moi du fer, et puis, non. Mon frère Eric voit l'achèvement du pont avant le commencement de la première étape des travaux sur le terrain. De même, vous devez imaginer ce que vous voulez dans votre esprit. Un autre exemple. Quand un paysan va semer ses graines dans un champ, avant de la semer, il sait qu'il veut récolter. Il sort pas de chez lui comme ça. Avec un sac, puis il s'invite. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je fais ça? Il pense, il dit, tiens, il faut que j'ai tant de récoltes, voilà, le meilleur terrain que j'ai, je vais semer ça parce que je veux ça, etc. Il pense! On pense tous! Mais à quoi? C'est l'heure de comment gagner des millions. Faut vite que j'aille regarder, parce qu'on s'instruit quand on regarde cette émission. On apprend des choses très intéressantes. Ouais. Et la télévision que vous regardez, elle est à crédit, encore, machin, patin, couf, enfin, ça m'énerve. Alors, idéaliser ce que vous voulez avant de l'avoir. Idéaliser, ça veut dire idéaliser l'idée de ce que vous voulez avant de l'avoir. Au début, par exemple, vous pensez, je veux une voiture, comme je vous ai tout à l'heure. Et puis, vous devez embellir la pensée, c'est-à-dire vous devez la peaufiner. Quelle marque de voiture vous voulez? Quelle couleur vous voulez? Ça, c'est plutôt les femmes qui pensent à la couleur tout de suite. Hein, les hommes, on pense plutôt à la puissance du moteur. Quelle puissance vous voulez? Les sièges, vous les voulez en cuir? Vous les voulez en tissu? Pensez-y. Vous devez avoir l'image la plus claire, la plus complète possible, voir les détails de ce que vous voulez. Si vous voulez une voiture avec des sièges en cuir, fermez vos yeux et imaginez, vous entrez dans la voiture, vous sentez l'odeur du cuir. Ben, ça fait partie de l'imagination, ça aussi. Je suis sûr que vous allez arriver à sentir l'odeur du cuir, même si vous n'êtes pas assis dedans encore. Et maintenant, pendant que ces détails apparaissent sur l'écran de votre imagination, il y a des choses qui se débloquent et vous allez voir se créer les moyens pour pouvoir obtenir ce que vous voulez obtenir. Vous voyez, une chose amène une autre chose. Vous commencez par penser, à imaginer la chose, à peaufiner l'image, et puis ensuite, les choses se mettent en place petit à petit pour que vous puissiez obtenir la chose que vous voulez. Dire « ayez la foi », c'est se foutre du monde. C'est pas suffisant. Il faut savoir ce que c'est que la foi, comment ça fonctionne, pour pouvoir avoir une foi juste, pas un truc vaseux, religieux et inefficace. Vous voyez, la pensée, elle mène donc à l'action. C'est parce que l'épître de Paul nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Pensez ce que vous voulez. On va lire Matthieu chapitre 15, verset 28. Matthieu 15, 28. Je vous lis. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, elle fut guérie. « Ta foi est grande, qu'il te soit fait ce que tu veux. » Tu veux quoi? Précise. À l'aveugle, Jésus a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» L'aveugle avait peut-être des problèmes financiers. C'était peut-être pas son problème numéro un d'être aveugle. C'est pourquoi Jésus lui a dit, tu veux quoi? Seigneur, que je recouvre la vue. Ben, qu'il en soit fait selon ta foi, ce que tu veux. Voilà. Il faut savoir ce que vous voulez déjà premièrement. Et puis ensuite, agir correctement et le résultat va venir. Une fois que vous avez pensé ce que vous voulez, que vous l'avez imaginé, alors vous pouvez commencer une action. cette action que vous allez commencer va vous attirer des amis. Pas que, hein. Ça va aussi vous attirer des ennemis, mais ça, au nom de Jésus, on les met en pièces détachées, et puis voilà, on tire la chasse. Une fois que vous avez donc commencé une action, ça va vous attirer des amis, des gens qui vont dire « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ces amis, ils vont provoquer des circonstances. Ces amis, ils vont provoquer des circonstances qui vont finalement vous aider à matérialiser et à accomplir ce que vous voulez. Dans ma vie, ça s'est toujours passé comme ça. Nous ne sommes pas seuls, jamais, jamais, jamais. Et on n'arrive pas à faire des grandes choses tout seul. C'est pas vrai. Des petits trucs, oui, mais des grandes choses, non. Ne croyez pas que Dieu a pensé... Quand Dieu a créé le monde, comment il a fait? Vous ne croyez pas qu'il a d'abord pensé? Bien sûr qu'il a pensé. Ne croyez-vous pas qu'il avait d'abord une image de ce qu'il voulait créer? Ou est-ce que vous pensez qu'un matin, il s'est levé en disant « Bon, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ah ben tiens, je veux faire du monde, un monde, ploup, 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 et puis c'est la terre fumée, puis ah oh, ben tiens, voilà, puis quand... Allons, allons, allons. Et ne croyez-vous pas que vous êtes fait à son image ? Et si vous êtes fait à son image, il vous faut faire comme lui, c'est-à-dire penser, imaginer ce que vous voulez avant de l'avoir. Il a fait un plan. Il a même fait un plan pour notre salut avant même qu'on soit créé. Ça, c'est une loi qui mélange le spirituel et le matériel. Parce que nous sommes spirituels et matériels. Et c'est une loi, cette loi-là, qui mélange les deux. Et qui fait que nous arrivons à faire des choses bien concrètes, bien réelles. Vos pensées prendront forme comme l'univers a pris forme. Parce que vous êtes esprit, comme Dieu est esprit, vous êtes à son image, vous fonctionnez comme lui. Dieu ne diffère ni en nature, ni en qualité de vous. Ouais, bah, le seul, il y a un degré de différence, hein, faut quand même rester humble, on n'est pas Dieu comme Dieu. Mais Jésus dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais nous avons en nous l'esprit de Dieu, pas pour faire, pas seulement pour parler en langue. Hein? Bien sûr qu'il faut parler en langue. Moi, je parle en langue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas suffisant. Il y a tout ce qui va avec, tout ce que Dieu nous a donné. Nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Mais c'est quoi ce tout? Ben, c'est ça aussi, c'est l'imagination, le pouvoir de votre imagination. La plupart des chrétiens agissent contrairement à ses lois spirituelles. Il commence par prier et puis à faire. Il prie puis il vend. Une fois qu'ils ont fait, ils s'aperçoivent que c'est pas génial, alors ils corrigent et puis ils essayent d'améliorer. Et puis c'est du brique et du broc, quoi. C'est pas du pro, comme on dit. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Il faut penser d'abord, il faut imaginer d'abord, il faut améliorer notre pensée. Mes frères et sœurs, si vous pouvez suivre les principes que je vous donne aujourd'hui à la lettre, vous développerez votre foi. Cette sorte de foi qui est la substance des choses espérées. La substance des choses que vous espérez sort de votre foi. Si vous faites ce que je vous dis à la lettre, vous allez développer cette sorte de foi qui est la substance des choses que vous espérez. Hébreux 11, 1. Vous allez développer cette sorte de foi qui est l'évidence des choses que vous voulez et que vous ne voyez toujours pas. Cette sorte de foi, elle est la manifestation des choses qu'on ne voit pas encore. C'est ce qui est écrit. Si vous n'êtes pas d'accord, arrachez la page d'Hébreux chapitre 11. C'est-à-dire qu'en pratiquant ainsi, vous développez votre confiance. Le genre de confiance qui mène à l'endurance et au courage, à la persévérance, à la détermination. Toutes ces choses-là sont des vertus quand elles sont placées entre les mains de Dieu. Sinon, c'est de l'obstination crétine. vous développerez votre pouvoir de concentration qui vous permettra d'exclure toutes les pensées parasites. On a des tas de pensées parasites. Quand j'ai eu ce cancer, vous croyez que je n'ai pas eu les idées, bon, ben, je vais crever, voilà, c'est fini, c'est terminé, et puis tous ceux qui ne m'aiment pas, ils vont bien se réjouir. Mais bien sûr, j'ai eu des pensées comme ça. C'est des pensées parasites. Mais étant donné que j'ai toujours exercé ma foi en visualisant correctement, j'ai eu beaucoup plus de facilité à éliminer ces pensées parasites. Selon les bonnes lois de Dieu, les pensées se manifesteront dans la forme matérielle, bien réelle, parce que c'est la bonne loi de Dieu. Vous savez, seul l'homme capable de penser divinement ses propres pensées peut assumer la place de vainqueur. Je dis bien assumer, parce que, encore, être vainqueur c'est une chose, encore faut-il l'assumer. Moi je connais des sportifs qui n'assumaient pas d'être le premier, et qui en faisaient des dépressions. Il y a des gens qui n'assument pas d'être des stars. J'ai regardé encore dernièrement un DVD qui est sorti sur les Beatles. Eh bien, c'était tellement énorme d'être des stars qu'ils n'ont pas assumé ça. C'était trop. Vous vous rendez compte, ils ne peuvent plus aller au McDonald's tout seul. Seul l'homme capable de penser divinement ses propres pensées peut assumer la place du vainqueur et parler avec autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, de la foi qui déplace les montagnes, il nous en faut maintenant. Il nous en faut maintenant. Et il nous en faudra encore plus dans les mois qui viennent. Parce que si vous croyez ceux qui vous racontent que tout va bien aller, Madame la Marquise, si vous les croyez eux, ben vous êtes en train d'être trompé, de vous tromper. Vous devez développer cette sorte de foi jusqu'au retour glorieux de Jésus. Amen. 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 Jésus, je te prie pour que ce message fort puisse trouver le chemin des cœurs de chacun et que leur vie change et qu'ils puissent attester que cela est vrai dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. 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 Au revoir, mes frères et sœurs.